c'est vraiment le bazar sur cette belle planète.
Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cheminons dans la transition. Cette émission en partenariat entre l'IGET, les Jourdains en transition et Radio Fil de l'eau. Et bien sûr, nos deux animatrices phares sont là aujourd'hui, Cinzia et Silvano. Bonjour à tous les deux, comment ça va?
Bien et toi?
Oui, ça va bien, merci. Silvano, tu vas bien?
Oui,
on se voit un peu plus régulièrement, voilà, oui. On se voit un petit peu plus régulièrement tous les deux. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, cette émission, on en est pas loin. On en a fait pas loin d'une dizaine maintenant, hein, quand même. De cette émission Cheminons dans la transition. Voilà ce partenariat, je l'ai dit, entre l'IGET et Radio Fil de l'eau. On traite d'un sujet en général en première partie d'émission, un dossier un peu du jour, si on peut le dire comme ça. Et ensuite, bien sûr, on se base sur la gazette de l'IGET, savoir tout ce qui va se passer durant le mois à venir. Je vais vous laisser l'annoncer de quoi on va parler lors de cette émission.
Alors, on s'est aperçu qu'on a laissé passer mars, qui était le mois de la journée des droits de la femme, la journée internationale des droits de la femme. Et nous, on a fait une émission qui ne traitait pas des femmes. Donc, du coup, ça n'allait pas du tout. Donc, ce mois-ci, on va parler des femmes qui ont été importantes et qui sont encore aujourd'hui importantes dans l'écologie.
Ok. Ouais, c'est bien parce que du coup, on prolonge comme ça. On ne reste pas que sur le mois de mars. Tu vois, on va prolonger ça. On est début avril, puis on va prolonger ça tout au long de l'année. Mais écoute, je vous laisse la parole de qui vous voulez parler, parce que là, moi, c'est un sujet que je maîtrise peu, donc je vais en apprendre tout plein aujourd'hui. De qui est-ce que vous voulez nous parler?
Alors d'abord, je vais vous parler de Rachel Carson. Alors, toutes les informations que j'ai tirées là pour mes recherches sur Rachel Carson, ça vient de reporter.net.
Ok.
Je voulais le dire quand même.
Oui, tout à fait.
Donc, Rachel Carson est née en 1907 en Pennsylvanie. Elle a un master de zoologie et elle travaille à vulgariser les articles scientifiques. Et elle se fait déjà remarquer avec une trilogie sur la mer en 1941-1955. Okay. C'est les années où paraît ce livre. Mais là où ça change vraiment, c'est en 1962 avec Silent Springs, donc le printemps silencieux. Et quand on parle des livres de Rachel Carson, on dit qu'elle sait lier la science et la poésie et qu'elle amène ses lecteurs dans son amour de la nature. À travers ses livres, on peut vraiment sentir son militantisme et sa passion pour la nature, mais quelque chose qui vient profondément du cœur.
Et il y a quelques années déjà, parce que tu dis, né en 1907, parution entre les années 40-50, on est sur, voilà, comme quoi c'est des sujets qui sont pas si récents. Quand
c'est
même.
Ça, c'est ça. Et donc je disais, en 1962, tout change quand elle écrit Silent Springs, le printemps silencieux. Quelqu'un disait, à la lecture du printemps silencieux, on se rend compte que tout est écrit. Pourquoi? Parce qu'elle parle du DDT, c'est-à-dire un pesticide et de ses dangers.
Okay.
Donc, ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'à l'époque, en 1962, elle a noté les effets cocktails, les perturbateurs endocriniens, les contaminations in utero liées à l'utilisation des pesticides.
Ouais.
Donc, c'est vraiment une précurseur.
Avant-gardiste, c'est clair,
ouais.
Avant-gardiste.
Une précurseur par rapport à ça. Et forcément, face à ça, donc, son livre est publié. Il est très, très vite lu et c'est un fort, fort succès. Mais face à ce livre, qu'est-ce que fait l'industrie pharmaceutique? Et elle se comporte de façon patriarcale, banale, quoi. Donc, elle cherche à salir ses recherches.
Étouffer, faire taire.
Voilà, à critiquer, à des insultes sexistes. Oui. Enfin, elle a le droit à tout.
Comme quoi, il y a des choses qui sont aussi pas toutes neuves, quoi.
Non.
Malheureusement.
Et ce qui est génial, c'est qu'elle tient tête. Et à l'époque, aux États-Unis, le président, c'est John Fitzgerald Kennedy. Et lui, il soutient sa thèse.
Okay.
Et ce qui est génial, c'est que du coup, soutenu par JFK, Ça met 10 ans, mais au bout de 10 ans, le DDT est interdit aux États-Unis.
Ok.
Donc, c'était vraiment... enfin, voilà, c'est
un
vraiment...
Un vrai impact, quoi,
oui,
quand même.
Oui, un vrai impact par rapport à ça. Et après, le printemps silencieux, Rachel Carson fait une enquête qui met en évidence la hausse de la température des océans. Donc, c'est déjà aussi une précurseur et une lanceuse d'alerte, comme on dit aujourd'hui, par rapport au réchauffement climatique. Donc, cette personne, Rachel Carson, elle a vraiment été une source d'inspiration très profonde et très, très importante pour l'écologie profonde et tout ce qui est écoféminisme qui se vit aujourd'hui. Et par rapport à cette personne, ben, j'ai juste envie de dire, d'abord aux personnes un peu hors sol que j'ai entendu parfois dire « Mais qui aurait pu prévoir le dérèglement climatique ?» Eh bien, je réponds, Rachel Carson, en 1962. Et puis, l'autre souci, c'est les pesticides. Parce que, oui, le DDT a été interdit, mais il en reste 300. Il y en a 300 qui l'ont remplacé. Et les problèmes de pesticides, les problèmes déjà cités par Rachel Carson, sont toujours d'actualité. Et malheureusement, il y a une grande loi du silence par rapport à ça.
63 ans plus tard, les choses n'ont pas beaucoup bougé.
Il y a encore des choses à bouger. Mais déjà, je trouvais que pour l'époque, c'était hyper important qu'elle puisse dire ça.
Surtout, ça devait être encore plus compliqué à l'époque, du fait d'être une femme, comme tu disais tout à l'heure. Quoi. Forcément, on parle des années 40, 50, 60. Oui. Même si là, aujourd'hui, les choses ont un petit peu évolué. Ça bouge tout petit à petit, mais il y a 60 ans en arrière, ça devait être encore plus compliqué. Ouais.
Donc vraiment, c'était très, très courageux. Et vraiment, c'est une source d'inspiration, comme je l'ai dit, vraiment très, très importante pour l'écologie profonde et l'écoféminisme. Donc, voici la première. La deuxième dont je voulais vous parler, c'est Joanna Macy, parce que, du coup, je vous ai parlé que Rachel Carson avait influencé l'écologie profonde et l'écoféminisme, et du coup, on ne peut pas parler d'écologie profonde sans parler de Joanna Macy. Donc, Joanna Macy, elle est née en 1929. C'est une militante écolo. Elle est plutôt spécialiste dans la théorie des systèmes et aussi dans le bouddhisme. Et alors elle, son grand truc, c'est qu'elle a développé une méthodologie qui vise à approfondir notre connexion à la terre et au vivant. Et par cette connexion à la terre et au vivant, trouver le courage de traverser le fameux effondrement qui va peut-être arriver. Donc ça, c'est à travers le travail qui relie. Bon, je suis formée au travail qui relie, donc je peux en parler. Et cette méthode est vraiment très, très puissante, puisqu'elle va vraiment nous faire travailler à l'intérieur de manière à sentir qu'on est un bout de la terre. Et à partir de cette force du bout de la terre, on va trouver la force d'agir pour soutenir le vivant. Et pour soutenir le vivant, il y a quatre aspects. Donc, je vous ai déjà parlé dans une émission du changement de cap.
Tout à fait.
Donc, je rappelle les quatre aspects du changement de cap. D'abord, il y a soutenir le vivant. Donc, ça passe par dénombrer les nombres d'espèces ou bien sauvegarder la musique bretonne ou bien... Il y a plein de façons différentes de soutenir le vivant. C'est vraiment prendre soin de tout ce qui vit, y compris les cultures locales et les langues locales.
C'est vraiment le vivant dans sa plus large
définition.
Quoi.
Exactement. Le deuxième, c'est créer des nouvelles structures. Et pour créer des nouvelles structures, c'est des habitats partagés, c'est des cafés partagés, enfin associatifs plutôt. Enfin, c'est toutes ces initiatives-là qui permettent de vivre une alternative. Le troisième, c'est le changement de paradigme. Le changement de paradigme, c'est passer à une autre façon de penser en... Par exemple, en se disant que quoi que soit l'acte que je pose, si il y a des conséquences sur la septième génération, alors je le fais pas.
Ok. Oui, c'est vraiment pareil, d'essayer à très long terme.
Exactement. Mm-hmm. C'est voilà les actes que je pose, quelles sont les conséquences sur l'avenir. Et le dernier, c'est nourrir la vie. Et là, dans ce nourrir la vie, donc celui-là vient d'être rajouté aux trois autres, mais Celui-là, il parle de prendre soin des personnes. Par exemple, une dame qui va s'occuper de sa maman, ça fait partie de nourrir la vie. Une maman qui fait l'instruction en famille ou qui choisit de ne pas travailler pour élever son enfant, c'est tout ça. C'est les personnes qui travaillent en crèche. C'est tout, toutes ces personnes-là, c'est de nourrir la vie. Et donc, pourquoi Joanna Macy est importante pour moi parmi les écologistes? Tout simplement parce que par cette connexion à soi et cette conscience qu'on est un bout de la Terre, alors on peut créer une différence, on peut agir autrement. Et elle est vraiment un soutien très très important et précieux pour toutes les personnes qui veulent agir pour la planète, parce que quand on est une activiste, alors je ne sais pas si ça se dit en français, j'ai l'impression de prendre ça des Américains.
Non, ça se dit, ouais.
Ok, donc quand on est activiste, eh ben, on se retrouve à être découragé face aux causes écologistes, parce que bah, je vois par exemple Joanna Macy et celle dont je vais vous parler après. Depuis les années 60, elle lutte contre le nucléaire et il est encore là avec ses déchets.
Il est
donc
bien là.
Donc c'est important d'avoir ces endroits où on peut se ressourcer pour avoir le courage de continuer à avancer, parce que pour la nature, ça avance pas rapidement,
pas très
quoi.
Vite, ouais.
Voilà, j'ai terminé.
Eh ben ça marche, on va faire la première pause musicale. Donc après avoir parlé de ces deux premières, personnalités, de ces deux premières femmes qui ont agi, donc qui ont agi dans les, il y a quelques années de cela.
Et elles agissent encore, hein.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Joanna Macy, elle agit encore.
Donc ça marche. Première pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute, les amis? Qu'est-ce que vous avez choisi comme morceau pour cette émission aujourd'hui?
Alors c'est une dame que j'ai découverte très récemment, mais j'adore sa voix, j'adore sa musique toute douce. C'est Ljubljana et son morceau c'est Farafina Musso.
Ljubljana et Gelfay, donc Farafina Musso. J'ai regardé parce que moi je ne le savais pas, mais en fait j'aurais juste pu poser la question à Cinzia qui le savait. Ce que voulait dire, ce que signifie Farafina Musso, ce sont des femmes d'Afrique. Je ne le savais pas, je le découvre. Tu voulais ajouter un petit quelque chose parce qu'on a oublié pour clôturer sur un. J'ai perdu son nom.
Joanna Macy. Voilà, merci. Alors, oui, avant de clôturer sur Joanna Macy, je voulais dire que pour toutes les personnes qui ont déjà envie d'expérimenter le parcours de la spirale, il y a un site, et là je suis super fière de ce site parce que j'ai quand même, alors je fais partie de l'équipe qui a traduit la formation en anglais en français, donc tu vois, enfin c'était un sacré boulot, et donc on peut trouver cette formation et ce parcours sur echoesdelaterre.earth.
Ok.
Donc, comme la terre
quoi. Voilà. Ça marche.
Donc voilà, je voulais préciser ça.
Tu as bien fait.
Et puis la dernière femme dont moi je voulais vous parler, après c'est Sylvano qui
prend le relais,
c'est Starhawk. Forcément, Starhawk. Donc Starhawk, elle est américaine, elle est écrivaine, activiste, écoféministe et sorcière. Alors, quand on parle de sorcière, de quoi on parle?
Oui, c'est ça.
Parce que je sais bien que c'est un terme qui peut chambouler, qui peut choquer et qui a une histoire. Donc, du coup, pour décrire sorcière, je voulais juste vous lire sa définition. Allez. Je vous ai déjà lu, puisque je vous ai déjà parlé de Star Wars.
Tout à fait.
Nous qui pratiquons l'art de la sorcellerie, nous ne croyons pas en la déesse. Nous communiquons avec elle en nous connectant avec la lune, les étoiles, les océans, la terre, les arbres et les animaux, avec les autres êtres humains et nous-mêmes. La déesse est présente partout. Elle est le cercle complet. La terre, l'air, le feu, l'eau et l'essence même de toute chose. Le corps, le mental, l'esprit, les émotions, le changement.
C'est effectivement pas la définition qu'on faisait à une certaine époque des sorcières.
Rien à voir, juste rien à voir. Et quand on parle d'écoféminisme, alors je ne me risquerai pas à faire une thèse sur le mouvement écoféministe parce que pour moi c'est d'abord quelque chose qui se vit plutôt que quelque chose qui s'explique. Okay. Et puis avec tous les courants de l'écoféminisme, il y a je sais pas combien de définitions, c'est super difficile de l'expliquer. Alors moi voilà, c'est ma définition, mais bien sûr elle est généraliste, quoi. Donc, l'écoféminisme, c'est l'idée selon laquelle les femmes et la nature subissent les mêmes oppressions, c'est-à-dire l'oppression capitaliste, patriarcale et colonialiste. Avec, les trois sont liés, de toute façon, et puis c'est toujours avec une idée de pouvoir sur l'autre, plutôt que le pouvoir avec l'autre. Donc, voilà, donc elle est active pour tout ça. Donc, Starhawk, comment parler de Starhawk en très peu de temps? Depuis les années 70, elle est activiste. D'abord, dans tout ce qui était nucléaire. Et puis aussi, elle a toujours agi pour défendre la nature d'une façon ou d'une autre. Elle a été aussi très connue par rapport au sommet altermondialiste. Et puis maintenant, elle agit beaucoup avec l'idée de la permaculture.
Okay.
Alors, ce que j'aime beaucoup dans la vision de Starhawk, c'est qu'elle lie le sacré et l'activisme. Donc, c'est vraiment une spiritualité où on est en lien avec la nature et on transmet ça dans des actions, mais vraiment militantes pour le coup.
Oui, ouais.
Parce que Starhawk, il faut quand même savoir qu'elle a arrêté de compter le nombre de séjours en prison à partir de 24.
D'accord, sur une bonne moyenne.
Elle a arrêté de compter. Voilà, on est sur de la vraie action, quoi. Ouais. Hein. Enfin, c'est pas qu'il y a des petites ou des mauvaises. Là, on est sur quelque chose où elle a été en prison pour ça. Donc, elle est foncièrement pacifiste. Et puis, j'aime aussi sa façon d'être très, très inclusive. C'est-à-dire qu'elle est toujours à chercher à connaître et comprendre les autres cultures et les autres personnes. Elle a un livre magnifique qui s'appelle « Manuel de l'action collective » où elle explique tout par rapport aux actions des uns des autres, comment gérer un groupe, comment éviter les conflits, comment... Parce qu'elle a une énorme expérience dans l'action collective et donc son manuel pointe vraiment toutes les difficultés qu'on peut trouver dans un groupe et comment les résoudre. Donc elle est vraiment magnifique pour ça. Et pour moi... Oui, alors ce qui est vraiment aussi très très fort chez Starhawk, c'est que à partir de ce lien sacré et activisme, on va atteindre quelque chose que les Américains appellent empowerment et empuissancement, ouais. Mais en français ça sonne moins bien. Donc c'est l'empuissancement, cette idée d'empuissancement, c'est retrouver son pouvoir personnel au service de valeurs qui ont du sens pour nous. Et donc à partir de cet empuissancement, on va voir les copines et les copains et on agit ensemble.
Ouais, parce que une idée de collectif.
Oui, ouais. Et puis un collectif qui n'est pas que féminin. Je veux dire, l'écoféminisme, ça se vit aussi avec des hommes. Hein. Il ne faut pas scinder. Et justement, il y a ce mouvement d'unité qui est toujours présent chez Starhawk. Elle cherche toujours à réunir. Le dernier podcast qu'elle a fait, que j'ai écouté, c'était « Comment ne pas être... » Je suis désolée, je vais dire un gros mot, mais « Comment ne pas être un connard ?» Et l'idée, c'était...
Il faut le diffuser, celui-là.
Après, il faut comprendre l'américain, mais l'idée, c'était comment on arrive face à quelqu'un en ayant des préjugés qui vont faire que... Et puis, bababam, et du coup, comment sortir de ces préjugés ? Et elle est passionnante, elle va très loin dans sa pensée. Je suis fan, hein, j'ai pas un regard objectif, je suis fan, je l'avoue. Et j'ai eu la chance de me former avec elle cet été à la permaculture et l'été prochain, je me forme à la permaculture sociale avec elle.
Okay.
Donc vraiment, j'adore. Et je crois que j'ai tout dit. Non, je sais plus. Donc, oui, elle est très, très inclusive et elle est aussi dans l'activité de groupe. Et ben, ça, je l'ai dit, en fait. Donc, s'il y a des livres à noter de Starhawk, donc il y a le manuel de l'action collective, il y a Rêver l'obscur, femme, magie et politique. Donc là, on va refaire toute la lutte anti-nucléaire.
Okay.
Et Chronique altermondialiste. Donc là, c'est vraiment tous les sommets comme Cancun, Gênes et yes. Tout ça, là, tous ces trucs-là. Elle y était, elle a fait des actions et okay. C'était... voilà. Donc pour moi, Starhawk, elle est vraiment très très importante parce que encore aujourd'hui, elle participe très très fortement au changement de conscience. Et puis en amenant aujourd'hui cette idée, alors de toujours se sacrer avec la sorcellerie qui n'est qu'en fait la connexion de soi à la terre. Et cet activisme qui est vraiment très, 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 très puissant, ouais. Quoi.
Oui, c'est ça, vraiment plus qu'une militante, il y a vraiment le côté activiste, comme tu l'as dit depuis le début, voilà, activiste égale action, vraiment,
oui.
dans les termes de créer des actions, de faire des actions et d'intervenir, en fait. Quoi.
Oui, et d'agir ensemble, ouais. Et d'agir ensemble. Il y a vraiment une idée très forte du collectif, de la community, comme okay. Ils disent toujours. Donc pour moi, elle est vraiment très très importante pour ça. Et elle est aussi très importante parce que elle développe très fortement donc cette idée de permaculture. Et aujourd'hui, on la trouve sur plein de voies où on voit que toute sa pensée est permaculturelle. Donc la permaculture, je vous en ai parlé aussi, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et prendre soin de l'avenir. En consommant que ce qu'on a à consommer. Et vraiment, c'est puissant, quoi.
Starhawk, donc voilà, mais c'est bien, tu fais bien. On sent, ouais, effectivement, on sent que ça t'anime. Mais...
Je suis pas objective ouais, quand il s'agit de Starhawk, je suis pas objective.
Bon, en tout cas, ouais, voilà, vous avez les références pour aller voir, et puis de toute façon, on est en 2025, hein, donc si vous voulez vous renseigner sur Starhawk, c'est relativement simple à l'heure actuelle. À ton tour, Sylvano, c'est toi qui prends le relais, qui va oui. Nous présenter la dernière femme du jour avant de bien sûr, on le sait passer à la Gazette de Ligette en fin d'émission, voilà, savoir tout ce qui va se passer pendant le mois d'avril. De qui, toi, tu vas nous parler, Sylvano ?
Eh ben, je vais vous parler d'une jeune activiste, bon, plus âgée que moi, mais quand même plus jeune que les noms cités récemment.
Ouais.
Donc, bah, Greta Thunberg.
On s'attendait pas. C'est un jeune activiste. Oui, c'était. Il y avait un indice, effectivement.
Après, il y a deux sœurs aux îles à Bali qui ont lutté contre le plastique et elles sont aussi mémorables.
C'est vrai, tout à fait. Mais là, comme il y en avait qu'une, il y avait un indice. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Greta Thunberg là? Comment il la surnomme beaucoup là? La marionnette des lobbies écologistes, etc. Voilà, elle a vraiment une image. Enfin, elle se fait défoncer partout puisque c'est une jeune. Alors, soit disant pour beaucoup de monde, elle n'est pas assez âgée pour avoir ce genre de réflexion et de se poser ce genre de questions. Enfin voilà, elle est, c'est vrai qu'elle, ce qu'elle prend, elle est d'un sacré courage, effectivement, cette jeune fille. Ouais.
Donc, Greta Thunberg est née le 3 janvier 2003, donc à Stockholm, en Suède.
Ah, je ne pensais pas si, enfin, si âgée, entre guillemets. Je ne savais pas qu'elle avait déjà cet âge-là.
Donc, grande figure du militantisme est très connue quand même actuellement chez les jeunes. Donc, elle commença à s'intéresser à la cause climatique vers ses 11 ans.
Ok.
Donc, ses premières actions furent des actions quand même simples. Premièrement, en devenant vegan.
Ok.
Puis, en refusant de prendre l'avion.
Oui, ça c'est...
Donc, comme expliqué dans des émissions précédentes, c'est quand même des éléments...
C'est deux gros éléments, effectivement, actuellement de l'écologie, quoi, dans la consommation pour la viande et ce que ça peut amener aussi. Effectivement, l'avion, on en a parlé régulièrement, on sait à quel point c'est compliqué. Ouais.
Donc, ses premières actions qui ont fait vraiment connues, ces manifestations tous les vendredis, qui était donc devant le Parlement suédois, qui donc avait pour but, qui ont commencé donc à partir du 20 août 2018, et le but c'était de vu qu'il y avait des élections qui allaient venir, justement de les pousser à avoir un programme sur l'écologie, parce que justement ils avaient aussi une énorme sécheresse avant, et donc ils avaient fait plusieurs feux de forêt. Qui avait été fortement...
Ouais. Puis on parle de la Suède, quoi. En fait, c'est pas un pays normalement où il fait très très chaud et où il y a beaucoup de feu. Et voilà, on n'est pas trop près de l'équateur, quoi. Je veux dire, donc normalement, effectivement.
Donc, même après ça, elle a continué son combat pour que la Suède respecte complètement les accords de Paris et surtout en limitant les déjections de gaz de carbonique.
Ok.
Et autres gaz pouvant nuire.
Des gaz à effet de serre, des choses comme ça, quoi, gaz du 6. Gaz de schiste. C'est bien parce que ça nous fait travailler l'articulation comme ça aussi.
Donc, avec toute cette notoriété, déjà qu'elle avait avec ses manifestations régulières, elle a aussi participé à plusieurs manifestations internationales, comme par exemple la. Récemment, c'était en 2019 devant le Parlement européen et plus tard aussi dans plein d'autres villes, mais sur des grosses manifestations.
Oui, c'est ça. Voilà. Le but, c'était d'avoir la visibilité, quoi.
Voilà. Donc aussi, elle participa aussi à des commissions et autres regroupements internationaux. Comme elle était venue une fois à la commission sur l'écologie de du Parlement européen.
Ok.
Et aussi, elle était venue à la COP 24, 27.
20 et quelques. Voilà. Oui, c'est ça, il y a tellement de COP en fait qu'on ne sait plus la culture. Oui, il y a une certaine des COP 20 et des brouettes. Ça marche.
Et donc, voilà. Elle a fait beaucoup de choses et surtout sa médiation a permis à beaucoup de jeunes.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est là-dessus, je pense qu'elle a été assez importante parce que pas mal de jeunes ont pu aussi s'identifier à elle dans le sens, voilà, on a à peu près le même âge, on a un peu cette tendance des fois quand on est un peu jeune, tu vois, à tout ce qui a plus de 15 ans, plus que nous, hein, dire oui, voilà, laisser un peu de côté. Et du coup, oui, c'est vrai qu'elle a vachement chopé la jeunesse. Et en plus, elle était assez assez coup de poing quoi, dans ses prises de parole, dans ses les moments où elle a pu parler et tout. Enfin, je veux dire, elle prend pas de pincettes, même quand elle est face à des dirigeants, face à, comme tu disais, à l'Union européenne ou ce genre de choses, elle prend pas de pincettes, elle y va quoi.
J'ai le souvenir à l'ONU où elle a un discours, mais elle les engueule en fait. elle les remet devant leur responsabilité et elle les engueule carrément. Donc oui, elle avait vraiment de courage.
Ouais.
Et pour moi, elle est aussi importante parce qu'elle a généré chez tous les jeunes ce mouvement de manifestation qu'on a pu voir à Bruxelles, ouais, à Paris. Partout, il y a eu des manifestations pour le climat, les marches pour le climat, qui étaient vraiment très, très, très importantes. Ouais, ouais. Et ça a créé plein de dynamiques différentes, en fait.
Ouais, ouais. Mais c'est ça, vraiment, l'importance aussi, justement, de l'engagement de la jeunesse aussi, ouais, dans ce type de mouvement. Et peu importe un petit peu l'engagement que vous avez, mais on voit que ça prend, on voit que ça marche, en fait, parce qu'effectivement, il nous faut souvent un petit peu quelqu'un auquel peut-être s'identifier un petit peu, ou en tout cas qui peut-être nous ressemble ou quoi. Et du coup, c'est vrai que d'avoir aussi des personnes aussi jeunes qui s'engagent et qui font des actions comme elle a pu le faire, bah forcément, ça amène aussi justement les jeunes à la réflexion, de se dire, ouais, mais c'est pas que des sujets d'anciens ou ce genre de choses, quoi.
Après, elle a aussi donné son soutien à Sainte-Soline.
Ok, ah oui, oui, au Bassine.
Oui, au Bassine, plus
récemment. Ça a fait 2 ans, je crois, tout dernièrement, là, d'ailleurs, à Sainte-Soline, déjà. Ouais.
Et après, récemment, elle est venue pas très loin d'ici.
Ok.
Entre tous les... Et sur le projet A69.
Ah oui, oui, tout à fait, la Toulouse-Castres,
voilà.
La fameuse autoroute. La fameuse. Ouais, ouais. Ok, ouais, je savais pas qu'elle s'était déplacée. Je savais qu'il y a eu une grosse mobilisation quand même. Je connaissais les mobilisations un peu des personnalités françaises. J'ai vu passer beaucoup de monde et tout. Je savais pas que Greta Thunberg s'était aussi engagée sur le projet. Mais comme quoi, elle est aussi à l'affût, quoi. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'elle choisit, entre guillemets, pas forcément ses sujets, pas forcément ses trucs. Elle va partout, elle est à l'affût de choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'entre guillemets, la portion à 69, voilà, ça aurait pu même pas lui arriver jusqu'aux oreilles, en fait. C'est surtout ça. Et on voit que, ben voilà, qu'elle s'engage aussi. Et je ne savais pas qu'elle a été venue carrément sur place. Ouais. Deuxième pause musicale.
Oui.
Ouais. À la fin de voilà, avant de passer à la Gazette de Ligette, qu'est-ce qu'on écoute comme second morceau, les amis?
Et donc c'était Écoféministe du groupe La Fièvre.
Eh ben allez, on écoute ça. C'est parti.
J'aime ton jardin radical. J'aime tes mains pleines de terre.
La fièvre écoféministe, on s'est fait surprendre par la fin du morceau, ça arrive une fois par émission. Il n'y a pas de raison que ça change. Allez, on va terminer donc cette émission en passant à la Gazette de Ligette. Ben voilà, savoir tout ce qui va se passer sur le territoire pendant ce mois d'avril. Et ben je vous écoute, qu'est-ce qui se passe?
Donc bah déjà, en avril, là, ça va être ce vendredi.
Ouais.
Donc, je sais pas si on sera avant, ça sera diffusé, mais...
À quelle heure?
À 20h.
Alors c'est bon, parce que première diffusion de l'émission le vendredi à 18h, donc c'est bon.
Ok, donc ça sera le 4 avril, donc si vous avez rien là, dans deux heures,
c'est ça.
Vous pouvez y
si
aller.
Si vous n'avez rien de prévu pour la soirée, n'hésitez pas.
Voilà, donc il y a un ciné-débat donc, au cinéma, c'est le meilleur endroit.
Il y avait un indice aussi, hein. c'est vrai.
Donc organisé par Ligette et le NID, donc okay. Bigger Than Us.
D'accord, Bigger Than Us, oui, effectivement, ouais. On avait reçu le Nino justement afin de parler un petit peu de tout ça, et on en a parlé tous les deux aussi rapidement l'autre jour, hein, hors antenne bien sûr.
Donc voilà, ça donc.
Bigger Than Us est vraiment un documentaire très très inspirant sur comment les jeunes agissent à travers le monde, pas que pour l'écologie, mais des jeunes qui s'engagent pour, bah, comme dit le titre, plus grand qu'eux. Ouais. Et c'est vraiment 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 inspirant.
Ok. Donc rendez-vous au cinéma là, de l'Ijournée Cinéma Olympia à partir de 20h pour ce ciné-débat, voilà. Ce vendredi soir à 20h.
Après, bah, le Janénodrome,
okay.
Il y a le dimanche 6 avril et à 14h30 et 16h30 pour donc, préparer pour la plantation des semis. Plantation et semis à faire.
D'accord.
Veuillez m'excuser. Donc après il y aura aussi une balade herboriste le dimanche 27 avril à 14h30 et donc le lieu n'est pas encore communiqué.
Ok. Inscrivez-vous à la Gazette ou allez sur le site de Ligette de toute façon régulièrement, il y a les informations. Si voilà, au moment où vous nous écoutez il n'y a pas encore là les infos, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Ligette, vous aurez tout ce qu'il faut.
Après on a déjà l'info mais ce n'est pas vraiment pour ce mois-ci. C'est pour le 17 mai. Il y a un Reaper Café, donc justement à la MJC.
Mais oui, tout à fait, le Reaper Café. Première année, je crois. Il y avait depuis des années la Gratiferia qui se fait, et cette année, on y greffe, il me semble, le Reaper Café. Ouais. Donc, on en reparlera dans l'émission prochaine, oui. Mais notez déjà la date, en tout cas, le 17 mai, ça s'est calé.
Après, il y a des. Il y a avec justement Ligette aussi, en tout cas il y a un lien avec Ligette, il y a le Talent et Trajectoire qui propose plusieurs conférences débats.
Ok.
Donc c'est une. Donc ça va pour. Ça a pour but de trouver.
De trouver ses mots ? Non, pardon. Comment tu peux...
Une orientation professionnelle selon vos talents, selon vos...
Compétences,
voilà. Pour être dans un métier qui vous fait beaucoup plus kiffer que...
que celui dans lequel vous êtes peut-être déjà actuellement.
Peut-être, à moins que vous ayez de la chance que celui qui, dans lequel vous êtes vous fait kiffer.
Ouais, par exemple. Moi, je suis plutôt pas mal, hein, je vais pas me plaindre.
Mais donc, voilà. Okay. Donc, il y en a en tout, sur toute l'année, sur la fin d'année et après, même sur le début d'année.
Fin de saison, début de saison, quand tu dis voilà. année scolaire, entre guillemets, quoi, sur le calendrier scolaire ou sur l'année civile 25
et 26.
Ok, d'accord, ok. Autant pour moi.
Donc, il y aura le 24 avril, 22 mai, 22 juin. Ça, c'est toujours au.
Oui, là, pour. Voilà,
en 2025.
Oui, ok, oui, bien sûr.
2 octobre, 13 novembre et 29 janvier. Okay. Sur, donc, c'est à 19h30. À 20h30 et que je retrouve le lieu. C'est à la Robastide. C'est donc voilà.
Chez un particulier.
Voilà, chez un particulier.
Qui a confiance, qui vous fait confiance, oui. De vous accueillir chez lui, chez elle.
Et donc c'est le tout.
C'est... Ok, très bien. C'est le tout. Ça marche. Alors, si c'est le tout, on va pouvoir clôturer donc cette émission. Donc, on le rappelle encore une fois, si jamais voilà, vous êtes passé à côté d'info et si vous nous prenez en cours de route ou quoi, n'hésitez pas à rendez-vous sur le site de l'IGET déjà pour avoir tout ce qui est sur la Gazette, savoir tout ce qui va se passer courant du mois d'avril. Et si vous nous prenez en fin d'émission et tout, rendez-vous aussi sur le site de Radio Fil de l'Eau dans l'onglet Cheminons dans la transition pour pouvoir réécouter cette émission en podcast. Chinsia, Silvano, merci beaucoup encore pour cette émission aujourd'hui où on a fait perdurer ce festival en Marcel jusqu'à début avril. On va le faire continuer ça toute l'année. Merci beaucoup à tous les deux et on se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao.
Bye.
Mes amis, c'est vraiment le bazar sur cette belle planète.
Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net.